Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va découvrir ce que c'est que prendre son temps pour réfléchir, pour choisir, pour décider et tracer son chemin. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Salma Sila, bonjour.
Bonjour, bonjour Yasmine.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Salma?
Ça va, très très bien, en pleine forme, ça se passe très bien.
Eh bien super. Alors Salma, vous êtes en fait une touche de féminité dans un monde d'industrie assez masculine, celle de l'automobile.
Exact, exactement.
Alors justement, l'aspect féminin, quand on est dans un monde professionnel masculin, comment vous êtes arrivée, comment vous l'avez géré en fait? Est-ce que ça a déjà été une problématique, on va dire?
Je ne dirais pas que c'était une problématique, je dirais plus que c'était un beau challenge. Parce que quand on arrive dans un monde qui est principalement, majoritairement d'hommes, composé d'hommes, c'est un peu plus difficile de se faire une place. Surtout que au début, on essaye vraiment de mieux comprendre l'industrie, ce qui est un peu délicat parce que pour créer des liens, il faut comprendre l'opérationnel et pour comprendre l'opérationnel, il faut vraiment être dans l'aspect, si on peut dire, un peu technique de la chose et être en contact principalement avec les hommes qui gèrent cette industrie et aussi des femmes qui gèrent cette industrie. En quoi c'était un challenge? C'est pour vraiment valider ta position dans un monde d'hommes, principalement d'hommes.
C'est ça.
C'était un peu plus ça le challenge. Mais à part ça, je pense que c'était un beau challenge, comme je disais. C'était une belle expérience pour moi.
Alors justement, pourquoi je pose la question? Parce que vous êtes une belle femme, en fait. Vous êtes ce qu'on appelle une belle femme. Alors une belle femme, justement, est-ce que tu as eu... J'ai pas envie de poser les questions de façon générale, mais vraiment de façon précise, parce que on parle de ton histoire à toi. Et du coup, je me suis retrouvée à te tutoyer en passant de vous à tu, parce que pour me connecter davantage à toi, si tu le permets. Mais voilà, tu es ce qu'on appelle une belle femme. Et cette belle femme, quand elle descend sur le terrain, est-ce qu'elle se gère? Est-ce qu'elle gère son corps? Est-ce qu'elle gère ses gestes? Est-ce qu'elle gère son sourire? Est-ce que tu as été amenée à penser à ces détails-là?
Alors, pour moi, être une belle femme, être femme en général, on doit avoir un certain positionnement dans n'importe quel environnement où on va être confronté à un environnement, un espace. On a la possibilité de le gérer parce que si on laisse l'environnement gérer la façon avec laquelle on est, c'est un peu plus compliqué de vraiment mettre et ancrer la place qu'on veut avoir. Donc pour moi, pour répondre à ta question, ça n'a jamais été un vrai problème pour moi de vraiment mettre ma position et être prise au sérieux, si on peut dire. Surtout que moi, quand j'ai intégré l'industrie automobile, j'étais très jeune. J'avais à peine 24 ans, j'étais jeune, je ne connaissais rien de l'industrie, je ne connaissais rien d'une multinationale américaine, etc. Donc c'était nouveau pour moi. Et donc j'étais plus une personne qui était là pour découvrir. Et donc du coup j'étais aussi une personne qui était approchable plus facilement. Et donc pour créer des liens avec des gens, c'était beaucoup plus facile pour moi. Ça n'a jamais été un frein. D'être dans un monde où dans une table de réunion, dans une salle de réunion, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être la seule femme à parler, d'être la seule femme à présenter, d'être la seule femme à former un groupe d'hommes. Mais je n'ai pas vraiment trouvé de difficultés par rapport à ça parce que ce qui m'a vraiment aidée, c'est aussi de comprendre là d'où je viens. et comment j'ai été éduquée, comment pour moi il y avait pas d'appréhension par rapport à la différence entre un homme et une femme. La différence ne se fait pas à travers le gender, ça se fait à travers ce que tu peux offrir, ta performance et ce que tu peux apporter aussi à l'ensemble et à l'organisation.
Alors, c'est très beau ce que tu dis, c'est très important pour toutes ces jeunes générations de jeunes femmes qui t'écoutent et de jeunes hommes aussi qui écoutent notre podcast de Femmes d'aujourd'hui et de sa version homme. Alors, je vais te poser, avant de... Je ne vais pas poser ça en affirmation, mais toi, tu es en contact parce que toi, tu t'occupes de tout ce qui est leadership organisationnel, développement, etc., entre la France et l'Afrique, au sein de cet organisme-là. Et donc, en fait, tu es en contact avec l'humain derrière le métier, en fait. Tu es vraiment en contact avec le développement de l'humain derrière le métier. Et j'imagine que tu rencontres les jeunes recrues, les plus jeunes, les plus anciennes, etc. Est-ce que tu sens une différence de mentalité par rapport aux différentes générations? Toi qui es, on va dire, au milieu du curseur entre les anciens et les nouveaux.
Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Est-ce qu'il y a un changement? Oui. Est-ce que aujourd'hui la nouvelle génération est plus ouverte? Oui. Après, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir n'importe quelle personne, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, elle doit rentrer dans un moule pour ne pas. C'est pas un moule avec des cadres, mais c'est une intégration culturelle qui fait que la personne doit vraiment comprendre elle fait partie de quoi, elle fait partie de quel espace, elle fait partie de quel environnement, pour qu'elle puisse s'identifier à l'environnement où elle est. C'est-à-dire qu'une fois que la personne va faire en sorte qu'elle soit dans un organisme, elle doit aussi comprendre qu'il y a une culture qui va guider cet organisme, qui doit guider sa position dans l'organisation. Donc certes, il y a des personnes qui viennent de l'ancienne école, des personnes qui vont te juger plus sur ta performance, etc., alors que la nouvelle génération, on va plus être dans l'inventivité, entre l'agilité, entre le leadership, entre les soft skills, etc. Et le mix des deux et de créer un petit passage entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, pour moi, il s'agit beaucoup plus de comment l'entreprise fait en sorte qu'il y ait une intégration culturelle et qu'il y ait une compréhension de ce que c'est que vivre ensemble dans une organisation.
Et par rapport à cette notion de...
C'est la différence par rapport à ça.
Par rapport à cette notion de gender equality.
Exact. Après, gender equality, moi, je dirais, il n'y aura jamais d'égalité, si je peux dire. Il y a une équité et il y a les personnes devraient vraiment prendre le temps de se connaître davantage pour se positionner là où ils voudraient être. C'est-à-dire qu'on doit plus miser sur le fait qu'on doit mieux comprendre soi pour savoir comment on peut s'ancrer dans l'environnement où on est. On ne peut pas proclamer et vouloir être quelqu'un et égal à quelqu'un si on ne se connaît pas assez, on ne connaît pas ce qu'on peut apporter. Et donc, pour moi, il y a plus d'équité, un travail d'équité, plus d'égalité, parce que moi, je n'ai pas envie d'être égale à un homme, parce que je n'ai pas les mêmes aspirations qu'un homme. Mais j'ai besoin d'avoir les mêmes opportunités qui se présente à un homme.
J'adore comment c'est
et
dit.
Ça, c'est différent.
J'adore comment c'est dit. Alors justement, Selma, tu as dit, il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Tu as dit deux choses. Tu as dit, je sais d'où je viens. Donc j'aimerais bien qu'on retourne sur ça. D'où viens-tu justement? Et tu as dit aussi, l'autre point qui est très important, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, ça... Il y a toujours un déclic qui nous pousse à vouloir nous connaître, en fait. Ça ne vient pas tout seul. Il y a un déclic qui fait qu'on se dit, OK, très bien, qui suis-je? Où suis-je? Et vers quoi je veux aller, en fait? Et pour faire ça, il faut se connaître. Est-ce que c'est lié entre d'où tu viens et ce questionnement-là? Est-ce qu'il y a un pont entre les deux?
Je dirais oui. Mais pas obligatoirement.
Mais chez toi, je parle de toi en particulier.
Voilà, par rapport à moi, je dirais oui. Alors, ce qui nous ramène à répondre à la première question.
Ouais.
Moi, j'ai plutôt un parcours un peu atypique. J'ai été éduquée dans une famille où, pour moi, ma mère et mon père, ils font la même chose. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas la femme qui prend le lead sur des choses et l'homme qui prend le lead sur des choses. C'est-à-dire que j'ai toujours vu mon père faire des choses que ma mère fait et ma mère faire des choses que mon père fait. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un modèle où, pour moi, il n'y a pas de choses qui sont destinées à un homme ou à une femme. Surtout, moi, je parle du point de vue de l'éducation des enfants.
Okay.
C'est-à-dire que j'ai toujours eu un modèle où mon père et ma mère, ils faisaient un peu la même chose en termes d'action vers les enfants. Donc, pour moi, c'était ça le point de départ. Il n'y avait pas d'appréhension par rapport à ça. Après, dans plus je prenais de la maturité, etc., mon parcours a été aussi guidé par le fait que j'ai pas voulu faire un parcours standard, comme tout le monde. C'est-à-dire que au moment où j'avais commencé à faire mes études supérieures, je me suis dit non, c'est pas ce que je veux au fait. Je ne sais pas ce que je veux. Et je veux connaître le monde professionnel avant de choisir ce que je veux faire. Et ça a été supporté pleinement par mes parents, parce qu'à l'époque, j'avais à peine 22 ans, et je leur ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas envie de m'intégrer dans un cursus standard pour arriver à avoir un diplôme, et au final, de me dire, ce n'est pas ce que je voulais, ou... Je veux vraiment connaître ce qu'il y a dans le monde professionnel avant de partir vers quelque chose.
Ah, excellent. Ça, c'était juste après le bac.
2 ans après le bac.
D'accord.
2 ans après le bac.
C'est-à-dire mais pendant les 2 ans, tu as fait quoi?
Pendant les 2 ans, j'ai fait du management. J'ai fait un DUT en gestion d'entreprise, en management.
OK.
Et du coup, ça m'avait beaucoup aidé parce que lors de ce cursus-là, on était amené à faire des stages d'observation, on était amené à faire plein de découvertes. Et moi, tellement j'ai été fascinée par le monde de l'entreprise, la première année de mon cursus universitaire, au lieu de partir faire des vacances d'été, etc., j'ai choisi de faire des stages. Des petites missions, des remplacements d'assistantes, une chargée d'accueil, etc. Parce que pour moi, je voulais comprendre mieux comment ça se passe. Et je n'avais pas de problème d'aller vers des petits boulots pour apprendre ce qui se passe dans l'entreprise, de comprendre un peu les différentes dynamiques. Et j'ai fait ça dans plusieurs sociétés en étant très, très jeune. Je prenais des petites missions d'intérim, des petites missions de recrutement, etc. Et ça, je l'ai fait pendant les 2 ans où je travaillais et j'étudiais. Et ça m'avait vraiment forgé. Ça m'avait vraiment, ça m'avait ouvert les yeux sur le fait que je ne veux pas avoir un diplôme pour avoir un diplôme. Je veux avoir quelque chose qui va ajouter et avoir de la valeur ajoutée par rapport à ce que je fais et par rapport à ce que j'offre. Et je veux aussi me découvrir à travers ces actions que je suis en train de faire. Je veux aussi me découvrir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que le parcours atypique que j'ai eu... Certes, ça a des inconvénients parce que tu voyais les gens avancer dans leurs études et toi, tu es encore en train de vouloir savoir où est-ce que tu veux aller. Mais j'ai toujours été fascinée par la RH. J'ai toujours été fascinée par le contact humain, par être confrontée à des situations où tu as à gérer un humain plus qu'une machine ou un ordinateur, etc. Et donc, c'est là où je voulais aller.
Alors, Salma...
Je me suis rendue compte.
Pardon. Salma, justement, le fait d'avoir pris ton temps, vraiment prendre ton temps, de savoir ce que tu veux. Et ça, j'appuie sur le mot parce qu'on ne nous a pas appris à prendre notre temps. On nous a appris surtout à courir pour décrocher une place, en fait.
Exact.
Et ça, j'imagine que ça te ground davantage dans ton futur, en fait. C'est-à-dire que contrairement à tout ce qu'on voit aujourd'hui, it anchors you davantage dans ton futur. Par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui de tout ce qui est changement de carrière, changement de cap de vie, tous ces trucs-là, en fait, j'ai l'impression que toi, en fait, tu t'es prémunie à l'avance.
C'est vrai.
En amont.
On me dit souvent que j'ai grandi avant l'heure. J'ai grandi avant l'heure du point de vue maturité parce que le fait de vraiment prendre le temps de prendre des décisions, de vraiment prendre le temps de vouloir et de savoir ce qu'on veut vraiment, ça nous permet aussi de nourrir notre patience et de nourrir aussi notre passion. Parce que quand on prend le temps de vraiment savoir ce qu'on veut, on le fait avec plus de passion et on le fait avec plus d'amour et on le fait en sachant pourquoi on a choisi d'être là. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée, non seulement dans le côté personnel et professionnel, mais aussi par rapport à la connaissance de soi, où on va revenir sur ce qu'on avait discuté auparavant. Qu'est-ce qui a un déclic par rapport à la connaissance de soi? À un moment donné, tu te dis, OK, bah, je suis en train de prendre des décisions, je suis en train de voir où est-ce que ça va mener, etc. Mais j'ai aussi besoin de savoir quelles sont mes forces. Et quelles sont les choses sur lesquelles je dois vraiment bâtir pour avancer de l'avant, pour aller de l'avant. Donc du coup, si on ne prend pas le temps aussi de se connaître soi-même, bah, on ne pourra rien offrir aux autres parce qu'on ne sait pas où on en est et on ne sait pas ce qu'on peut offrir. Et c'est un travail qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'humilité parce que quand on fait un petit diagnostic de soi, bah, certainement on va se retrouver avec des choses qu'on n'aime pas forcément, sur lesquelles on devrait agir, sur lesquelles on devrait mettre beaucoup plus d'action, etc. Mais on se rend compte aussi des choses qui sont bien et qu'on devrait enrichir ou mettre en valeur. Et c'est là où parfois les femmes ont du mal à sortir un peu de leur cocon parce qu'elles ne se connaissent pas assez, elles ne connaissent pas ce qu'elles peuvent offrir. Et donc, du coup, elles sont dans la restrictive. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas être à la hauteur, etc., etc. Et ça vient aussi du fait que, personnellement, ce qui m'a aussi beaucoup aidée à me découvrir moi-même, c'est être confrontée à l'inconnu. C'est-à-dire que durant ma carrière, j'ai été amenée à être propulsée dans des positions auxquelles je n'étais pas prête du tout. Pour moi, je n'étais pas prête. Je me disais, mais moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ce genre de position. Pourquoi on me le propose?
Et à ton avis, pourquoi on te le proposait, justement?
Moi, je pense qu'être entourée de bons mentors fait que les gens peuvent voir en toi un potentiel.
C'est ce que tu ne vois pas.
Voilà, ouais. Tu ne vois pas en toi.
C'est pas le syndrome de l'imposteur, rassure-moi.
Non, pas du tout.
Non, mais c'est légitime. Enfin, quand je dis c'est légitime, pourquoi je dis c'est légitime, Zema? On a tout le droit d'avoir nos faiblesses. Mm-hmm. Et on est très nombreuses à avoir souffert ou à souffrir du syndrome de l'imposteur. Mm-hmm. Combien de fois, les femmes se confient à moi par rapport à ça? Mm-hmm. Et des femmes lient jamais, je n'aurais imaginé qu'elles auraient ne serait-ce qu'un doute sur leurs compétences. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est plus féminin que masculin. On ne devrait même pas l'appeler le syndrome de l'imposteur, mais le syndrome de l'impostrice. Je ne sais même pas si le mot existe.
Non, mais c'est vrai. Même dans le cadre de mon travail, dans le cadre du développement des personnes, il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à se voir évoluer dans des positions. Elles sont dans un état où elles se disent, je suis bien là où je suis, et si on me propose quelque chose d'autre et que c'est inconnu pour moi, que c'est nouveau pour moi, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Moi, j'ai eu cette chance d'être propulsée dans des choses que je ne savais pas faire. Et que j'ai dû apprendre from scratch, c'est-à-dire des choses que je devais vraiment apprendre à zéro, apprendre des positions qui venaient d'être créées, apprendre des challenges qui venaient de voir le jour, des projets sur lesquels je devais travailler à zéro. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée à voir des choses que je ne voyais pas en moi, des qualités que je ne voyais pas en moi. Et plus on gagne en maturité par rapport à ces actions-là, plus on gagne aussi en confiance. Et plus on gagne en confiance, et bien évidemment, on gagne aussi de reconnaissance autour de nous. Par exemple, quand on voit une personne qui a une équipe, qu'elle fait évoluer, qu'elle fait briller, etc., pour moi, c'est un success. C'est pour ça que je me dis, avoir un mentor, c'est très important.
Absolument.
Quelqu'un qui voit en toi peut-être un potentiel que tu ne vois même pas en toi et qui te fait découvrir, qui te pousse à faire des choses que tu n'as pas forcément eu l'occasion de faire avant. Et aussi, je reprends la main aussi de ce mentor pour faire monter en compétence d'autres personnes.
D'autres personnes.
Parce que j'ai appris.
C'est ça.
J'ai appris à être accompagnée et je veux accompagner. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis très fière du fait que j'ai une équipe de femmes. c'était pas un choix, mais c'est par défaut, c'est venu comme ça. J'ai une équipe de femmes qui sont extraordinaires et qui reprennent le flambeau sur des choses que je faisais aujourd'hui de manière extraordinaire et bien meilleure que je le faisais moi-même. Et c'est quelque chose qui est magnifique, de voir les gens évoluer, de voir les gens et de prendre la main des gens pour les voir faire des choses outside of their comfort zone.
Alors, dernière question. Quand on est, tabarakallah, comme toi, une jeune femme, voilà, tu as dit, moi, je viens d'un environnement où mon père et ma mère faisaient la même chose. Family-wise, on va dire, en termes d'éducation, en termes de... Voilà, j'imagine tout ce qui est aussi habituel du quotidien, ménage, cuisine, etc. J'ai compris que ça devait être dans ce sens-là. Il n'y a pas d'écart. Ensuite, professionnellement... accompagner à évoluer, on t'a fait confiance, tu as pris le temps de choisir, pris le temps de réfléchir avant, faire le break nécessaire, prendre des risques que d'autres de ton âge n'ont pas pris. Je vais être honnête avec toi, tu sais que c'est mon rêve pour mes filles en fait. Moi je suis maman de deux filles et mon rêve pour elles, c'est qu'après le bac, elles prennent 2 années. Au lieu de rush vers les études, j'aimerais tellement en fait qu'elles prennent 2 ans à faire plusieurs stages dans différents domaines d'activité pour pouvoir sentir où est-ce qu'elles ont envie et de les envoyer étudier. Ça, c'est mon rêve pour elles. Je ferme la parenthèse. Alors, est-ce que c'est facile d'être en couple quand on est comme toi, avec ton mindset à toi? Tu en es où de ce côté-là?
En couple, il faut être avec une personne qui puisse comprendre ta dynamique, la dynamique de ton travail, tes priorités, etc. J'ai la chance d'être épaulée dans ce sens, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je dirais ça n'a pas toujours été le cas d'être vraiment épaulée, d'être avec une femme forte, un homme qui a la capacité d'être avec une femme forte de caractère, forte de caractère, c'est-à-dire une personne professionnellement qui est épanouie.
Qui sait ce qu'elle veut, en fait. Forte de caractère, c'est pas...
Qui gère des leaders, qui gère des managers, etc. Donc, qui a forcément une force de personnalité, etc. Je dirais que c'est tout à l'honneur de cette personne d'être avec une femme comme ça. Parce que malheureusement, pas tous les hommes ont cette capacité d'être avec une femme forte ou une femme indépendante, dans tous les sens, indépendante financièrement, indépendante émotionnellement, etc. Donc du coup, je pense que le choix de la personne avec laquelle on partage notre vie est très important, d'être épaulé, d'être soutenu et de voir que cette personne vraiment elle est heureuse de te voir glowing.
Exactement.
Elle te laisse la place
de t'épanouir.
De vraiment briller et d'être là au moment où tu brilles le plus et de ne pas prendre et tamiser ta lumière.
Heureuse aujourd'hui? Tu penses que.
Très heureuse.
Ouais, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah, très heureuse.
Salma Sila, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.